voit les premiers gros morceaux de glaçons et au loin la banquise toute disloquée, donc le pack de glace quoi.
Communication de la passerelle, nous venons de franchir le cercle polaire antarctique.
On vient de croiser une baleine, on a vu nos premiers manchots empereurs, nos premiers phoques, c'est, sans parler des oiseaux, c'est comme quelque chose d'assez extraordinaire quoi.
Enfin, il n'y a rien de plus qui ressemble à un iceberg qu'à un autre iceberg. Mais c'est grandiose quoi, de voir tout ça, tous ces manchots là partout, c'est juste incroyable.
Quand même, en voyant ça, ça doit quand même aider à vouloir défendre la planète.
Je sais pas, je dirais que j'ai la tête vide là, je suis juste super calme, puis super apaisé. Je sais pas, je me sens tout petit et j'ai un peu froid aux mains.
Donc voilà, on est là sur l'île du Lion. On va aller sur l'île des Pétrels, sur laquelle il y a la base de Dumont d'Urville. Bienvenue, on est content de vous voir.
Un été en Antarctique. Nicolas Martin, Yvon Croisier. Septième épisode. Le salaire de la glace.
Mardi 11 décembre, en Antarctique, il y a ceux qui viennent passer l'été, quelques mois, dans les conditions climatiques les plus clémentes. Il y a les hivernants qui s'isolent et qui vivent la longue nuit polaire. Et puis, il y a les gars du raid. Leur nom résonne comme celui des anciens héros polaires. Une dizaine de briscards, des durs à cuire qui ont acquis leur galon polaire et qui, durant l'été austral, conduisent un convoi qui relie, sur une route de glace, la station Dumont d'Urville à la base Concordia. Un convoi exceptionnel qui transporte du ravitaillement, mais surtout des hectolitres de fuel pour permettre à la base Concordia de passer l'hiver. Ce matin, le convoi est de retour à Cap Prudhomme, un camp de base à quelques kilomètres de la base Dumont d'Urville. Nous les rejoignons en cours de route, sur le plateau au-dessus de la base, en un coup d'hélicoptère, Alain Quivoron, le nouveau chef de district.
Alors on est actuellement au-dessus de la base de Prudhomme. On est à l'intersection entre la route classique empruntée par le RAID, entre Prudhomme et la station de Concordia. Et on est juste donc à l'embranchement entre cette route et ce qu'on appelle la piste d'hélice, qui est la piste d'atterrissage. Alors beaucoup de blanc, de superbes bleus au-dessus. On a un ciel qui est magnifique. Enfin, personnellement, je n'avais jamais eu ces nuances de bleu-vert. Et puis du côté de la mer, on a au contraire un gris plomb. Là-bas, au loin, vers l'intérieur du continent antarctique, eh bien, on a le retour de ce qu'on appelle le RAID, qui vient de terminer donc, son voyage de ravitaillement, pratiquement revenu donc, au Cap Prudhomme.
Voilà, on a une espèce de caravane comme ça qui brille dans le soleil et dans cette lumière très très blanche et très bleutée sur la ligne d'horizon. On dirait une version polaire du salaire de la peur presque, non ?
C'est vrai qu'il y a un petit peu de ça, donc avec ces engins chenillés qui remorquent tout un tas de contenants, des citernes, des containers frigos, des stations mobiles d'ailleurs de production d'énergie, hein, tout ce qui sert pour ce fameux RAID qui dure quand même quelque chose comme une dizaine de jours, je crois bien.
Allez, ouais.
Entre
20 jours aller-retour.
C'est ça.
Donc pour ceux qui ne connaissent pas le RAID, c'est une traversée.
Ivan Raffaï, médecin du RAID.
Entre deux bases. Et donc, de cette petite base de Cap Prudhomme a été pensé dans les années 90, si je ne me trompe pas, ou peut-être un peu plus tôt, un moyen d'aller ravitailler, tout d'abord de construire, pour les besoins de la science, la base de Concordia, base qui se situe sur un dôme qu'on appelle Dôme C ou Dôme Charlie, qui est en plein milieu du plateau antarctique. Et donc, du coup, de la base de Prudhomme a été inventée une traversée de 1134 ou 1200 km, on dira, vers cette base de Concordia, en plein milieu du désert antarctique, qui est considéré comme le plus grand désert et le plus sauvage, le plus extrême, on va dire, par ses températures et par son isolement.
C'est une sacrée expédition quand même de traverser quasiment les trois quarts, les deux tiers, disons, du continent antarctique pour monter, parce qu'il faut rappeler que Concordia, c'est à 3500 mètres d'altitude.
C'est vrai que c'est assez extraordinaire. Et alors, le responsable donc des opérations sur place nous disait tout à l'heure qu'aujourd'hui, leur aide a franchi une distance de 160 km, hein, donc ce qui est assez énorme et qui a été facilité visiblement par les bonnes conditions météorologiques.
Pendant ce temps, à DDU, les prévisions météo sont mauvaises. On s'apprête à encaisser un gros coup de vent. Olivier Chastel.
La pire des combinaisons, c'est lorsqu'il y a une dépression et la combinaison d'un vent katabatique. Donc c'est des masses d'air froid qui coulent le long de l'Antarctique et qui vont atteindre leur vitesse maximale sur la côte, là où nous sommes. Donc là, c'est vraiment, on peut le dire, assez dangereux.
Et là, vous me disiez juste, même sur la passerelle, qui est la passerelle sur laquelle on est, qui surplombe en fait les manchotières et qui permet de pas trop interagir avec les animaux, cette passerelle-là, elle peut devenir dangereuse justement à cause du vent.
Ah oui, il y a des fois où vraiment on rampe plus qu'on ne marche. On est agrippé à la rambarde et puis on fait ce qu'on peut pour essayer d'avancer. Et une fois, il m'est arrivé avec un collègue de pas pouvoir aller au restaurant à midi. On est resté à Biomar parce que c'était tout simplement impossible de se déplacer de façon sereine sur la passerelle.
Vérité Romain, je suis technicien instrument à Météo France.
On est où exactement ?
Bâtiment météo.
Et qu'est-ce qui est en train de se passer dans la pièce en face de nous ?
Une passation sur le radiosondage en Terre Adélie, c'est le lâcher de ballon en fait, météorologique quotidien. En fait, c'est un ballon qu'on gonfle à l'hélium sur lequel on attache une petite sonde, une sonde météorologique. Qui mesure des paramètres de température, humidité, pression, les vents. Le ballon fait son ascension pendant environ 2 heures. Il va monter jusqu'à 25-26 km, 30 pour les meilleurs, 30 km d'altitude. Et en fait, ça va nous permettre d'avoir des données météorologiques sur toute la verticale de l'atmosphère. Données qui seront après envoyées en métropole à Toulouse, pour être concentré dans un supercalculateur, pour après, par la suite, en faire des prévisions météorologiques.
Voilà. Vous me disiez, la météo, c'est très très important pour la base, pour les hivernants, pour le travail en règle générale et pour la vie au quotidien.
Oui, c'est très important pour la plupart des campagnards d'été, parce qu'il y a beaucoup de trafic de bateaux, des vols d'hélico, des manips en extérieur, et ça intéresse beaucoup de monde, quoi. Mais les vents sont vraiment très forts. Cette année, on a fait 210 km/h. Donc oui, ça c'est vraiment très impressionnant. J'avais jamais connu ça.
Patrice, où on va là ?
Là, on va à la rencontre du raid. Je viens d'arriver juste sur le haut de Prud'homme. Et donc là, ils reviennent du premier raid de la saison. Et après, pour l'autre, avec les bateaux, on attendra de voir le temps, voir les
gaz. Au niveau son, là, je pense que tu vas avoir vraiment un super échantillonnage avec la tempête de neige.
Ouais.
Ils annoncent 50 nœuds moyen, 70 nœuds en rafale. Ça devrait donner.
C'est bien.
Alors là, on vient d'arriver à D10. Donc D10, c'est un point qui est à 300 mètres d'altitude par rapport à Dumont-d'Urville, par rapport au niveau de la mer. On vient de dételer les convois et on va descendre la caravane vers Prud'homme.
Il y a combien de tracteurs ?
Là, il y a 6 tracteurs et 3 dameuses.
Ivan Raffaï, médecin du RAID.
Bah, moi, c'était mon premier raid. J'en rêve depuis que je suis adolescent. Et en fait, j'ai vu un reportage sur Envoyé Spécial dans les années 2002-2003 quand j'ai commencé mes études de médecine. Et depuis, je dis, c'est ça que je veux faire. Et...
Hello, monsieur
le doyen.
Le doyen, la faculté de médecine de Prud'homme.
Allô, maintenant, c'est... Enchanté, Ivan. Bon, ça va?
Ouais, toi?
Bah, ouais, ça fait plaisir de te voir.
Bah, ouais, bonne expérience.
Ouais, ouais, pas mal. On a eu beaucoup de chance, un super groupe et puis un super chef de raid.
C'est bien passé.
Ouais, ouais.
Donc depuis l'adolescence, envie de devenir une légende de l'Antarctique comme les...
Non, pas du tout. Mais en fait, pratiquer une médecine différente que celle de l'enfermement hospitalier ou libéral qu'on connaît dans notre métropole. Humainement, c'est intéressant. Ça apprend à être humble et à grandir dans différents domaines que celui pour lequel on a été formé.
Et puis, il y a quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire. Il y a un régime d'exception, non ?
Le voyage, ouais, est déjà une exception, et voyager dans un continent où il n'y a pas de verticalité et l'unique couleur c'est le blanc, déjà ça fait beaucoup réfléchir. Ouais. Et puis on se sent un peu seul et unique, privilégié.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes Nathalie ?
Oui, je suis Nathalie Jameau. Ben voilà, j'ai été prévisionniste à DDU durant cette année de mission TA68.
Bon, ça souffle un peu aujourd'hui.
Oui, ça souffle un peu, mais aujourd'hui moins que demain.
C'est demain le gros coup de vent annoncé ?
C'est demain le gros coup de vent annoncé, oui. Petite tempête de neige.
Qu'est-ce que Météo France prévoit ?
Eh bien, on prévoit, ça va commencer à neiger un petit peu dans la journée. Le vent va augmenter un petit peu. Et puis demain, c'est tempête de neige avec des vents à 40 nœuds, des rafales à 60, 70. Mais c'est très amusant de marcher contre le vent. Et on est comme dans une soufflerie et donc c'est assez, assez rigolo. Bon, là, on n'aura pas trop de chasse-neige, je crois, parce que la neige est trop collante. Mais l'hiver, quand la neige est très sèche... En fait, il y a du chasse-neige et on ne voit pas grand-chose, mais...
Du chasse-neige, c'est de la pulvérisation de neige dans
c'est la neige l'air. Qui est soulevée, qui est portée par le vent et qui fait un gros, gros brouillard. Et voilà, non, on ne voit pas grand-chose, mais de temps en temps, on ne voit pas à 2 mètres. Et c'est impressionnant.
Expliquez-moi ce que vous êtes en train de faire, là.
On prépare le ballon YOP.
YOP pour...
La campagne Polar Prevision.
Year of Polar Prevision.
Prediction. Et du coup, là, c'est un ballon spécifique qui fait 1000 grammes, qui va analyser l'air et en déduire la température et l'humidité.
En fait, il y a deux capteurs. Il y a un capteur de température, un capteur d'humidité, et la mesure du vent, elle se fait par position GPS successive. Voilà. Donc là, on va la mettre dans le système de test. Pour s'assurer que la sonde elle est bien fonctionnelle avant de partir.
Oui.
Star 2, là tu le lances, effectuer un sondage.
Une petite diode qui clignote.
Ouais, une petite LED qui clignote. Voilà, là tu peux relâcher, c'est bon. Et tu vérifies qu'il continue à clignoter.
C'est bon.
Et voilà, et c'est là où il faut que tu saisisses tes nuages. Donc le premier à saisir, c'est la nébulosité des nuages bas. Donc là, ouais, à peu près 4 huitièmes, ouais.
C'est-à-dire, ça correspond à quoi, 4 huitièmes ?
4 huitièmes, ça fait la moitié du ciel, grosso modo, qui est couvert de nuages bas, effectivement. Après, c'est le type de nuages bas. Donc là, c'est du stratocu, donc du 5.
Altocumulus, à 2 ou plusieurs niveaux, avec présence d'altostratus.
Oui, oui. Et là, on est prêt à les lancer. Voilà, on va y aller, on s'habille, et puis on va lancer le ballon.
Comme les cosmonautes, on se prépare, on s'habille chaudement. Alors aujourd'hui, c'est pas le blizzard, mais quand c'est le blizzard, c'est le masque, l'écharpe, les gros gants. Mais c'est vrai que parfois, quand il fait moins 20 et qu'il y a 60 nœuds de vent, c'est très difficile de lancer le ballon.
Alors Gaëtan,
prêt à lancer mon premier ballon par 28 nœuds de vent moyen.
Un peu fort comme ça, ou bon, aujourd'hui il n'est pas hyper violent, mais tu cours carrément vers la neige et tu le lâches, tu tergiverses pas.
D'accord. Et t'écoutes en fait quand il y a des grosses rafales, t'essayes de passer entre deux rafales.
D'accord, bon on y va.
À l'arrivée du raid, les gars descendent des dameuses et des camions, contents de retrouver un peu de compagnie après 10 jours de conduite solitaire sur les glaces antarctiques.
Bonjour Alain.
Bonjour.
Bonjour.
Bon, la route a été bonne ?
Ouais, là ça a été. Bon, à part là juste ben, midi, tout ça, beaucoup de vent, donc du chasse-neige. Donc pour l'hélico, c'était pas possible. Là, il y a la visibilité, on voyait pas bien. Puis là, ça va mieux, là quand même. Là, c'est bien.
Oui, physiquement, c'est pas trop éprouvant ?
Bah, disons que c'est un rythme à prendre, quoi. Il faut gérer son alimentation, son capital sommeil, parce qu'on n'en a pas beaucoup. Donc il faut gérer ça pour éviter, si jamais on rencontre des problèmes, d'être quand même assez disponible pour ça, quoi.
Vous roulez pas de nuit du tout, vous
ça
arrêtez.
Ça arrive des fois quand il y a le mauvais temps, parce que là il n'y a pas de nuit en ce moment. Mon troisième raid, il y a un peu de nuit, et des fois pour la visibilité c'est meilleur avec les phares et le mauvais temps, c'est mieux de rouler de nuit. Et puis il faut éviter de s'arrêter parce que sinon après il y a les congères qui se mettent dans les traîneaux et pour redémarrer c'est... Mais sinon voilà.
Alors ici on est dans la caravane énergie. Donc en fait la caravane du raid se comporte en deux, on va rester là, il y a beaucoup de bruit, en deux parties, il y a la partie vie et la partie énergie. Ben, c'est là où on fabrique l'électricité, l'eau pour prendre la douche, où on a les toilettes et l'atelier en même temps pour réparer les machines. Allez-y.
Et donc, l'eau que vous utilisez pour la douche, c'est de la neige fondue, en fait.
C'est de la neige fondue. On met de la neige dans un bac. Et dans ce bac passe une tuyauterie qui est le refroidissement du groupe électrogène. Et du coup, ça fait fondre la neige. Et on utilise ça. Alors, on ne la boit pas, mais on l'a pour la douche, quoi. Et la vaisselle. Voilà, ça, c'est la partie vie. Donc, on est à 10, là. Donc on a la cuisine avec le cuisinier.
cuisinier médecin conducteur. Ouais,
on prend un cuisinier qui éventuellement peut faire de la médecine, mais tant qu'il est cuisinier, ça nous arrange.
On va dire que j'ai toujours été intéressé par le mouvement. J'ai cherché dès l'adolescence à effectuer un métier qui me permette d'avoir un passeport professionnel. Tout simplement voyager avec mon métier. Du coup, un jour, j'ai postulé sur le marin du Fresne, dans les terres australes. Et là, première découverte avec le monde austral. Et puis très rapidement, par l'alignement des planètes, et ben le médecin-chef me dit « Ivan, je te propose d'être médecin de l'astrolabe pour une rotation. » Banco. Et puis, hop, Ivan, viens voir là, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est ton premier berg, iceberg. Ivan, va voir là, hop, c'est ta première aurore australe. J'ai été totalement séduit par ce continent blanc. Une histoire d'amour, quoi, qui commençait une passion. Je voulais absolument repartir en Antarctique. J'ai eu la réponse au mois de juillet, j'étais au summum de l'Everest, là. J'étais en hypoxie permanente, en manque d'oxygène. Ma respiration était haletante, c'était incroyable. Et donc, du coup, je me disais, c'est génial, je vais partir pendant 4 mois. Sur ce caillou blanc. Alors un peu d'angoisse, parce que je me dis que les médecins qui sont partis avant moi, c'était des médecins qui étaient plus âgés, peut-être plus expérimentés. Et puis double angoisse, alors vraiment ulcérante là, il faut être cuisinier. Et difficile quand on sait pas très bien cuisiner. J'ai vraiment eu peur. Donc j'ai commencé à regarder des recettes de cuisine. Marmiton. Je suis quand même excellent médecin, hein, faut le rappeler. Je suis peut-être très mauvais cuisinier, mais je suis un bon médecin. En plus, il fallait gérer une équipe de 10 personnes sur le plan vie quotidienne. Tu verras, Ivan, sur le raid, l'avantage, c'est que la nourriture est déjà prête. Ouf! Bon, alors après, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, tu verras, Ivan, il faut conduire. Ah, il faut conduire un tracteur, Ivan. Ah, un tracteur. Et c'est compliqué à conduire un tracteur. Ah oui, c'est assez compliqué parce que moi je suis sorti de route. Ah bon? Bon, d'accord. Eh ben, on essaiera d'être vigilant. Oui, mais tu peux être vigilant, mais c'est monotone de conduire 12 heures par jour en faisant la cuisine et en faisant l'intendance. Bon, d'accord. Et l'aventure humaine a commencé. J'insiste bien sur le mot aventure humaine, c'est que tout de suite, on est une équipe, on était 12 et on a vécu à 12.
À quoi, justement, puisque vous parlez d'anxiété, à quoi on pense quand on est 12 heures par jour au volant d'un engin, d'un tracteur, dans le blanc, à conduire tout seul dans sa cabine? Qu'est-ce qui se passe dans la tête dans ces moments-là?
Il y a différentes phases. Hein. Les premières journées, j'étais excité. Donc en fait, je n'avais pas de questions à résoudre. Je pensais à rien. J'écoutais bêtement la musique. Et au fur et à mesure du raid, j'ai des questions qui me sont venues spontanément à l'esprit, à la bouche. Et je me suis mis à verbaliser, à parler, tout seul. C'est des questions de la vie quotidienne. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse en rentrant? Où est-ce qu'il faut que j'aille? Et puis, dans les derniers jours, avant d'arriver à Concordia, des questions plus profondes. La vie professionnelle, la vie familiale, la vie personnelle. Toutes ces questions-là, dans le désordre, sont arrivées. Et puis, on essaie d'en élucider quelques-unes. J'avoue que j'ai pas beaucoup avancé dans les questions de vie sentimentale, mais j'ai résolu quelques questions qui me taraudaient ces dernières semaines.
Nicolas ou Nico?
Nico, Nicolas et Nico.
Vous avez combien de raids au compteur?
Je sais pas. Ouais, ça fait 12 ans.
C'est en fait, je me rends compte, plus ça va, plus je parle avec des gens qui sont de l'Antarctique, que vous êtes des grands toxicomanes, c'est ça?
Je pense qu'on peut le décrire comme ça. C'est une drogue. On partage des choses avec les gens et les conditions sont parfois difficiles. Hein. Et puis on a des soucis. Non, on vit autre chose. On est dans un autre monde.
C'est pas juste le défi du raid en lui-même, c'est tout ce que ça représente, non, de la communauté.
Non, le défi du raid, non. Enfin, aujourd'hui, je pense que la première fois, on a envie de le vivre, mais après, après, il y a des raids où on a eu des soucis, et du coup, il a fallu s'en sortir, et donc là, ça reste quand même, on n'oublie pas. Hein.
Par exemple.
L'année où il a fait froid, où on parlait de moins 60, voilà, donc. Et c'est un peu trop froid pour revenir, moins 60. Jusqu'à moins 50, ça va, mais après.
La Concordia, il faisait combien quand vous y étiez?
Moi, j'ai fait moins 45 à matin. Ouais. Moins 45, moins 47, mais au petit matin.
Voilà, c'est des raids difficiles parce qu'il faut revenir, les machines ne marchent plus, il faut trouver des solutions. Donc cette année-là, on a mis le feu sous une cuve pour réchauffer le gasoil, puisque c'était la seule. Enfin, c'était une des idées qui a été développée et qui a marché. Mais bon, donc du coup, c'est quand même des raids où tout le monde s'en rappelle. Et parfois, ça nous arrive de rouler un peu plus pour arriver avant le mauvais temps. Donc. D'ailleurs, le mauvais temps était prévu demain, je crois. Et, et on entend parler un peu de ce qui se passe.
Ça y est, elle arrive, la tempête.
C'est un bon coup de vent, avec de temps en temps des rafales approchant les 100 km/h.
Gaëtan Hems, chef météo.
Et le record absolu, c'est sur un matériel ancien, c'était en 1972. Il y a eu une rafale qui a été estimée à 320 km/h.
Voilà. Et sur l'évolution de la température, justement, c'est intéressant, là, parce qu'on est donc devant une armoire où il y a un certain nombre de statistiques qui sont affichées. Et sur l'évolution de la température, on voit bien que sur la ligne, il n'y a pas de progression du tout nette depuis les relevés de 1952.
C'est une sorte de... Alors ça a commencé en 1956, la température du Mont-Dourville. Effectivement, il n'y a pas d'évolution très marquée dans les températures annuelles. C'est surtout dominé par la variabilité d'une année à l'autre. Il y a des années chaudes, des années froides, mais il n'y a pas de tendance linéaire à la hausse. C'est même plutôt stationnaire ou en légère baisse. Et ça, c'est une particularité de l'est de l'Antarctique, d'avoir un climat qui ne se réchauffe pas. En Arctique, c'est une configuration qui est très différente puisque c'est un océan qui est entouré de continents. Ici, c'est exactement l'inverse. Mais ça ne contredit pas le schéma global de, à l'échelle globale moyenne sur toute la planète, que le climat a tendance à se réchauffer.
Est-ce qu'on sait si à un moment donné, il y a un tipping point, un point de bascule où le réchauffement climatique pourrait finir par avoir un impact, y compris sur cette zone qui est pour le moment relativement préservée ?
C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, mais pour lequel je n'ai pas les compétences pour répondre. Mais en tout cas, c'est déjà le cas, a priori, en Antarctique de l'Ouest. En fait, l'Inland 6 de l'Ouest de l'Antarctique est moins massif qu'à l'Est. Et après, il y a des circulations océaniques, des téléconnexions qui font que c'est déjà beaucoup plus affecté par le réchauffement du climat. Dans l'Antarctique de l'Est, a priori, oui, si on va dans un monde qui se réchauffe de 4 degrés d'ici 2100, forcément, à un moment donné, ce réchauffement va atteindre l'Antarctique. Mais à quel moment, à quel niveau, de quelle ampleur, est-ce qu'il va y avoir aussi, comme en Arctique, une amplification? C'est très intéressant, mais je ne sais pas du tout répondre. D'où l'intérêt de la campagne IOP, puisqu'on multiplie par 3 les observations en altitude pendant l'été.
Hop. On monte dans le tracteur pour retourner à Prudhomme avec le RAID. Hop. Super.
Ça c'est un spectacle, c'est incroyable. L'Antarctique ça change toujours, le soleil, les nuages, je sais pas ce qu'il est, mais ça change.
À quelle allure maximum vous allez, parce que là on roule très doucement par exemple?
Quand on monte à la première raid jusqu'à la piste qui sont 160 km presque, on a monté à 7h, 7h30, après la piste on arrive à 12h30. À la distance, ça va plus vite, on fait les 14, 14 et demi, 15. Ouais, c'est pas vite, non. Et ils sont très longues. Ouais. La première fois que j'y arrivais là, je me rappelle, j'ai écouté Walking on the Moon.
De Police.
Oui, et toutes les fois que j'y arrivais là, je me rappelle de la chanson là, et je crois qu'il est là, il est la meilleure là.
C'est vrai que ça marche pas mal. Hein. Je l'ai dans la tête maintenant et...
Ouais.
Ouais, nana, on va ralentir. Ouais. Hey Nico, le jaune, tu le mets en face de caravane? Non, on le mettra à gauche au-dessus. Ok. Et je ralentis encore un coup.
Dans le prochain épisode, scientifiques et techniques font équipe pour dresser un mât et on apprend à vivre ensemble, quelles que soient ses qualifications, à Dumont d'Urville. Un été en Antarctique, un reportage de Nicolas Martin réalisé par Yvon Croisier, avec Alain Quivoron, Yvan Raffaï, Olivier Chastel, Romain Vérité, Patrice Bretel, Nathalie Jameau, Gaëtan Hems, Pascal Herrera. À suivre.